chercheur à l'honneur. En 2025, la Fondation Michel Serres, Institut de France, a distingué le travail de 6 chercheuses et chercheurs pour leur thèse interdisciplinaire. Ils présentent leurs travaux sur la plateforme de podcast de l'Institut de France. Vous écoutez le 3e épisode de cette série. Si l'épidémie de sida dans les années 90 a marqué les esprits et transformé la société, on connaît beaucoup moins bien celle de la vérole, qui a pourtant bouleversé la Renaissance. C'est justement par le prisme des épidémies que Jérôme Lobner a choisi d'explorer l'histoire de la sexualité en s'intéressant plus particulièrement à la vérole, aussi appelée syphilis à partir du XVe siècle. Jérôme Lobner, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au studio de l'Institut de France. J'aimerais tout d'abord en connaître un peu plus sur vous et sur votre parcours avant d'aborder votre sujet de thèse. Vous avez commencé par des études littéraires, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. J'ai fait des études littéraires à l'université de Strasbourg. Et au moment du master recherche, j'ai décidé de m'intéresser à l'intrication entre la littérature et la médecine. Après avoir passé les concours de l'éducation nationale, j'ai décidé de poursuivre en thèse où je me suis intéressé justement à la vérole, à cette syphilis de la Renaissance.
Pourquoi avez-vous choisi d'explorer ce sujet ?
J'ai voulu m'intéresser en fait aux représentations de la sexualité dans des siècles plus anciens que le 19e siècle, le 20e siècle qu'on connaissait déjà bien. Et la syphilis était une porte d'entrée très intéressante pour comprendre quelles sont en fait les attentes, les normes ou les représentations de ce qu'était un bon acte sexuel pour les contemporains de cette épidémie nouvelle.
Vous utilisez plutôt le terme de vérole dans votre thèse. Pourquoi choisir ce terme plutôt que celui de la syphilis ?
Alors j'ai choisi le terme de vérole parce que c'est majoritairement le terme avec lequel les médecins, les poètes, les romanciers de la Renaissance parle de la syphilis. Je voulais aussi éviter à tout prix d'utiliser un terme que nous connaissons très bien encore aujourd'hui, syphilis, pour que ne s'y agrègent pas toutes nos représentations contemporaines. Je voulais en quelque sorte mettre cet objet à distance, le placer à distance de nos représentations attendues et lui rendre sa singularité de la Renaissance. On l'appelait vérole, grosse vérole, on l'appelait aussi mal français, mal indien, etc. Et c'est un peu toutes ces dénominations concurrentes que j'ai voulu explorer en me rendant compte tout simplement que vérole était le terme le plus usité dans mon corpus de thèse. C'est celui que j'ai fini par retenir.
Logiquement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est justement cette vérole pour nos auditeurs ?
Bien sûr. Alors, la vérole, ou aussi appelée la grosse vérole, c'est bel et bien ce qu'on appelle aujourd'hui la syphilis, c'est-à-dire une maladie sexuellement transmise que les contemporains de la Renaissance attribuait en fait à la rencontre avec le continent américain, puisque se développe peu à peu cette théorie selon laquelle la vérole aurait été transportée dans les cales des marins de Christophe Colomb pour venir contaminer le continent européen. Par ailleurs, la délimitation stricte des différentes maladies vénériennes n'est pas encore totalement aboutie. On va par exemple considérer que la gonorrhée est un des symptômes de la vérole, alors qu'aujourd'hui, on fait strictement la différence. Et puis, on considère aussi qu'on peut l'attraper de manière tout à fait différente que celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire qu'en dormant au contact d'une personne qui a la vérole, on peut attraper la maladie par le drap, par les objets souillés. Ce qui fait que c'est aussi pour cette raison que justement je ne voulais pas qu'on garde le terme de syphilis à l'esprit parce que ça allait fausser nos représentations dans les modes de transmission, dans les thérapeutiques.
Et donc justement, qu'est-ce que vous avez cherché à mettre en avant dans cette thèse ?
Dans cette thèse, j'ai voulu m'intéresser justement à représenter de façon contextuelle tout un ensemble de discours qui ont construit la vérole comme un objet de savoir, mais aussi comme un objet de récit que l'on raconte, que l'on fait circuler à travers à la fois les textes dits littéraires, mais aussi les textes scientifiques. J'ai vraiment cherché à ouvrir un maximum mon corpus de travail pour comprendre vraiment ce qu'une maladie vénérienne qu'on jugeait nouvelle à l'époque est venue faire à un ensemble de systèmes de représentation, à un ensemble de discours sur les hommes, les femmes, la sexualité.
J'aime beaucoup le parallèle que vous faites entre le sida et la vérole, notamment par rapport à la stigmatisation. Est-ce que les vérolés étaient aussi soumis à une forme de stigmatisation comme les malades du sida ?
Il y a bel et bien eu des phénomènes de stigmatisation. Si on considère par exemple que l'accès à un hôpital n'est pas autorisé aux personnes qui ont contracté la vérole pendant par exemple les premières années de l'épidémie par peur justement d'une contagiosité développée, on voit là déjà des premiers mécanismes de stigmatisation. D'autres personnes sont particulièrement stigmatisées, notamment les prostituées. On va de plus en plus leur faire tenir la responsabilité de la diffusion épidémique et des propos de plus en plus rudes vont être tenus à leur encontre. Il va y avoir aussi des phénomènes de fermeture, de bains municipaux ou de bordels, précisément à partir du moment où on a totalement assimilé la figure de la prostituée à une sorte de figure pourvoyeuse de la syphilis, pourvoyeuse de la vérole.
Et donc si on devait retenir un enseignement de votre thèse, est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez que nos auditeurs comprennent ?
Bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est peut-être moins une information qu'un état d'esprit. L'esprit de mon enquête, c'est bien de comprendre de façon contextualisée les périls qui pèsent sur la sexualité. Et ça nous amène à bien considérer qu'il n'y a en fait rien de naturel à proprement parler dans la sexualité. Elle est toujours construite par nos représentations sociales, traversée par des normes. Et l'intérêt d'aller regarder du côté des vérolés, c'est l'intérêt d'aller regarder du côté des marges, du côté de ce qui dysfonctionne. En fait, ce sont des contre-exemples de la bonne sexualité. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, cette thèse, moi, elle m'a particulièrement passionné parce que je suis allé voir du côté des rejetés, des parias, de la bonne sexualité reproductive. Et en fait, aller voir du côté des marges, c'est toujours vraiment très intéressant pour révéler le système normatif qui se cache derrière.
Donc votre thèse, elle est particulièrement interdisciplinaire, comme vous l'avez dit, par le corpus que vous avez traité, mais aussi par votre méthode de recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, justement ?
Cette interdisciplinarité, elle commence avec le choix d'un corpus très hétérogène, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu me limiter aux seuls textes littéraires qui font partie du canon des études de la littérature du XVIe siècle. Je suis allé lire les traités médicaux en français et en latin, je suis allé voir du côté de la littérature de voyage, des poèmes, des chansons, des traités moraux, des traités théologiques. Tout ce corpus, en fait, a dessiné une présence plurielle de la vérole au XVIe siècle et il a fallu évidemment déployer des outils eux-mêmes interdisciplinaires, une méthode interdisciplinaire pour rendre compte de tous ces discours. Cette méthode, elle a consisté à comparer des textes pour justement mieux comprendre la circulation des récits, des figures, des discours, du savoir en fait, qui se constitue autour de la vérole. L'idée, c'était vraiment de travailler au carrefour entre les discours, de ne pas les hiérarchiser, de ne pas considérer que les uns étaient plus importants que les autres.
Peut-être un mot aussi sur la Fondation Michel Serres. Comment est-ce que vous avez découvert ce prix et pourquoi vous avez décidé d'y postuler ?
La Fondation Michel Serres, j'ai pris connaissance de son existence grâce aux discussions avec mon directeur de thèse français, Jean-Charles Monferrand, et grâce à la visibilité de ce prix au sein de la Sorbonne, où j'ai été inscrit en co-tutelle de thèse. J'y ai retrouvé l'esprit qui a en fait conduit mes recherches. J'y ai retrouvé ce souhait d'inscrire la science au sein de la société, de montrer que les discours scientifiques sont traversés par des questions sociales et qu'on ne peut pas, si ce n'est en fait à des fins de presque caricaturales, de schématisation, opposer les sciences dites dures des sciences humaines. Elles sont systématiquement corrélées en interrelation.
Peut-être avant de conclure, un dernier mot. Est-ce que vous avez une anecdote marquante ou une découverte étonnante que vous aimeriez nous partager ?
Au fil de ma thèse, je me suis intéressé et j'ai essayé de comprendre quels étaient les comportements des individus face à la vérole. Même si c'est très difficile de savoir comment ils ont peut-être aménagé leur pratique sexuelle, j'ai essayé autant que possible de comprendre ce qui s'y passait. Et un médecin montpelliérain, Jean de Varanda, qui était professeur de l'Université de Montpellier, nous a révélé, nous a légué des stratégies préventives originales. Et notamment, il explique que certains hommes qui étaient pas vraiment prêts à renoncer au fait d'aller rendre visite aux prostituées, consommaient en fait des décoctions, ils buvaient en fait des médicaments avant d'aller retrouver les prostituées. Cette anecdote, moi, elle me frappe beaucoup, elle m'intéresse parce que justement, on voit des comportements préventifs originaux se mettre en place. des gens décident de consommer des remèdes en prévention, en guise de prévention, pour pouvoir avoir un rapport sexuel. Et ça fait écho, dans mon esprit, avec la PrEP aujourd'hui par rapport au VIH. Et elle me semble intéressante parce que justement, là aussi, c'est une manière de donner de l'autonomie aux personnes vis-à-vis de leur sexualité, plutôt que une simple injonction abstraite à l'abstinence.
Un grand merci, Jérôme. C'était vraiment passionnant. Je rappelle le nom de votre thèse pour nos auditeurs. Vénus malade, représentation de la vérole et des vérolés dans les discours littéraires et médicaux en France entre 1495 et 1633. Pour les auditeurs qui souhaitent en savoir plus, nous mettrons toutes vos ressources en ligne. Est-ce que votre thèse, elle a déjà été publiée ?
Elle est publiée et elle est disponible gratuitement en ligne sur le site de l'éditeur.
Parfait, merci beaucoup.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.